BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Vous êtes au cœur de l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles, de votre culture économique. On est en direct à la radio, à la télé, sur le web tous les jours. De 10h à midi, on est aussi en podcast. Bonjour à vous tous qui nous écoutez en dehors de nos frontières françaises. Au programme de l'heure à venir, l'immobilier. Avec le patron du réseau L'Adresse, Brice Cardi, nous allons prendre le pouls du marché immobilier. Marie-Cœur de Roy nous rejoint dans quelques minutes. Le question-réponse du jour sera avec Alice Labou, la présidente de Trecento AM. Elle va nous prendre par la main et nous aider à résoudre ces situations. Par exemple, celle où le banquier vous pousse à ouvrir un contrat d'assurance vie, mais vous avez peur d'y aller parce que vous ne voulez pas bloquer votre argent et surtout vous ne voulez pas ne pas pouvoir en disposer si vous en avez besoin. Que faire ? Alice aura des réponses ainsi que peut-être une réponse pour Xavier qui m'a écrit sur LinkedIn dans le prolongement de notre sujet sur l'assurance vie. Il nous demande si c'est possible d'ouvrir un deuxième compte dans un autre établissement pour se libérer de ce problème de transfert, la non-transférabilité de l'assurance vie dont nous parlions en début d'émission. On fera le point sur l'envolée du prix de l'or, envolée qui reste globalement inexpliquée par ce qu'on appelle les fondamentaux, les classiques, c'est-à-dire l'inflation, les taux réels ou l'aversion au risque. C'est Jean-François Faure du groupe Au Coffre qui viendra décrypter cette envolée de l'or. On va reparler du rôle des banques centrales, à mon avis. Au programme, il y a vous, comme Xavier, comme Julien, vous nous écrivez à l'adresse directe @bfmbusiness.fr. Vous m'écrivez aussi sur LinkedIn. Il y a Vincent aussi qui me pose des questions sur l'IFI. Nous allons nous occuper de vos impôts dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à nous adresser vos situations, vos questions. Nos experts se mobilisent pour vous éclairer dans cette période de déclaration fiscale. Nous partons à Euronext rejoindre Antoine. Cher Antoine, on vous retrouve avec en toile de fond une drôle de séance hein, avec un CAC 40 inchangé désormais, l'incertitude eh bien, qui s'installe hein, et qui domine.
Oui, encore une fois, puisque depuis le début de séance en belle hausse, hein, 0,5-0,6% de progression, on avait même du plus 0,8% en avant-marché, et puis on est revenu sur des points d'équilibre. On était même en légère baisse encore il y a quelques minutes, là on se redresse très légèrement, plus 0,09% à 8029 points. Mais encore une fois, une tendance très très fragile, et là pour le coup, il n'y a pas de pointe de risque géopolitique, il n'y a pas de gros chiffres macroéconomiques, non, c'est juste un petit coup de mou, et la prise de conscience déjà que la semaine va être extrêmement chargé, on en a beaucoup parlé en première heure, il va y avoir énormément de publications de résultats, donc on se veut prudent, il y a aussi la prise de conscience que la prime de risque géopolitique, elle est peut-être repartie à court terme, mais qu'elle reste toujours extrêmement présente, bien entendu, et puis du côté des autres places européennes, on a quand même un DAX à Francfort qui a tendance à être un petit peu plus ferme, plus 0,44%, et ça nous donne un Eurostock 50 qui gagne 0,24%, tout simplement, encore une fois, parce que le luxe se remet à poser sur le CAC 40, on a L'Oréal qui perd 0,53%, 442,60€, Hermès moins 0,34€ à 2312€. On attend les chiffres d'ailleurs d'Hermès et de Kering, chiffres d'activité cette semaine. Et après des belles performances sur la semaine écoulée, il y a peut-être la tentation de quelques prises de profit. À noter Schneider Electric qui signe la plus forte baisse du CAC à moins 0,74%, 206,85€. Sinon, quelques fortes baisses à signaler sur le SBF 120, Trigano moins 5%, on est à 142€. GTT moins 3% à 124,80 ou Sartorius Tedim qui subit vraiment une déconvenue boursière hein, là depuis une grosse semaine moins 2,44 à 195,70 a signalé quelques belles performances. Elior plus 4,33 à 2,41 plus forte hausse du CAC et du SBF 120. Ubisoft plus 3,32 à 21,76 et Worldline plus 3,29 9,81. Le CAC donc plus 0,09% 0,1% là à l'instant 8030 points et l'euro tiens l'euro 1,0659.
Tiens, on va reparler de l'euro parce que là aussi, il y a une drôle de situation à décortiquer. C'est votre histoire financière, tout de suite.
Tout pour investir, l'histoire d'Antoine.
Un point sur l'euro-dollar avec vous, Antoine. Drôle de situation aussi, puisque on a quand même une tendance très ferme et pourtant, rarement, les investisseurs n'auront été aussi pessimistes, aussi négatifs. Ils voient même... Alors, il nous voit même revenir à parité sous peu, expliquez-nous.
Peut-être encore moins d'ailleurs, hein, comme à fin 2022, on s'en souvient, c'est la dernière fois que c'était arrivé. Mais si on regarde bien d'ailleurs depuis le début de la séance, on a un tout petit peu de volatilité qui revient. On était du côté d'un 0,6,80 un petit peu plus tôt ce matin, là bah, on descend, 1,0650, 1,0660, on se cherche, on se tâte et il y a quelques signaux de fragilité assez nets. Alors c'est vrai que depuis quelques temps et depuis qu'on a la conviction de ce découplage qui est en train de se former entre Europe et États-Unis, c'est-à-dire des États-Unis où l'économie reste très, voire trop dynamique et l'inflation a du mal à se résorber, et une Union européenne où au contraire, là, tout semble réglé et la fenêtre de tir semble vraiment favorable pour la BCE pour baisser ses taux dès le mois prochain. On a quand même, le mois d'après plutôt, on a quand même la conviction qu'il va falloir prendre en compte tout cela dans les taux de change. Jusque-là, l'euro-dollar n'avait pas trop souffert, on reste à 1,06, 1,07 et on ne bouge pas trop. Mais pour l'avenir, les investisseurs voient carrément, effectivement, euro et dollar revenir à parité. Ils étaient à peu près aucun, hein, en début d'année, à voir le scénario revenir à l'ordre du jour. Ils sont 10% là en ce moment, si on fait la moyenne de leur position, sur les contrats de couverture, hein, sur l'euro-dollar. Donc là, on peut dire qu'ils s'attendent à ça sur le marché cash, bah, tout simplement parce que voilà, les perspectives de taux sont nettement en faveur du dollar. Le dollar qui bénéficie aussi d'un attrait accru à cause de la prime de risque géopolitique, il fait partie d'une des valeurs refuges disponibles sur le marché. Et puis troisièmement, il faut bien reconnaître que nous, en tant qu'Européens, bah, on est importateurs nets d'énergie à plus savoir qu'en faire, et que le dollar, c'est la monnaie forte d'un produit producteur. Et ça risque d'avoir un effet supplémentaire qui risque de tasser véritablement l'euro vers les plus bas et donc vers un scénario qui nous ramènerait à la parité, voire même en dessous.
Et oui, hein. Et puis avec la sous-performance de l'économie américaine qui effectivement est liée sans doute à cette situation des États-Unis qui sont importateurs nets d'énergie fossile. Ça c'était avant et qui maintenant sont exportateurs nets. Donc c'est sûr que tout ça en dollars, ça aide. Merci beaucoup pour ce point, Antoine. Cette histoire financière à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. Et Antoine qu'on retrouve régulièrement pour surveiller ce qui se passe du côté de notre CAC 40. Vous parliez des parités, de la parité euro-dollar. Je vous précise que notamment en ce qui concerne les devises asiatiques, eh bien presque toutes les devises s'effondrent face au dollar. Et je vous donne un exemple, c'est celui du dong vietnamien qui a atteint son plus bas historique face à l'US dollar la semaine dernière. Voilà, ces sujets de Forex, on continue également à les décrypter dans Tout pour investir et puis aussi parfois un petit peu dans BFM Bourse à partir de 15h30 tous les jours. Merci Antoine. Dans quelques secondes, c'est l'heure de l'immobilier avec Marie Cœur de Roi. Nous allons prendre le pouls de l'immobilier. On va se demander si ça va mieux. À tout de suite.
Tout pour investir sur BFM Business. Tout pour investir. La place de l'IMO.
La place de l'IMO tous les jours dans Tout pour investir. Nous allons prendre le pouls de notre marché immobilier. Docteur Marie est arrivée. Bonjour Marie Cœur de Roi.
Oh bon, bonjour Lorraine.
Nous sommes accompagnés de Brice Cardy ce matin, le PDG de l'Adresse. Bonjour Brice.
Bonjour Lorraine.
Et bonjour Marie.
Oui, quand même, hein, Brice.
Est-ce que ça va mieux? Marie me dit, voilà, il faut qu'on prenne le pouls. Bah, alors, est-ce que ça va mieux?
À la dernière fois qu'on s'est vu, il me semblait qu'on parlait de frémissement.
Et alors là, ça continue de frémir.
Non, mais j'aurais envie de faire un comparable, c'est pas la première fois, sur la météo. On a eu des coups de chaud, on a de belles éclaircies. Il y a encore certains nuages. Et moi, ce que je retiens surtout, c'est que ça soit vendeur ou acquéreur, nos clients sont frileux. À l'image du temps qu'il fait actuellement, il fait beau, mais il fait très froid. Ils sont très frileux, ils ont besoin qu'on les réchauffe, ils ont besoin qu'on les rassure. Donc c'est très compliqué. Le marché est compliqué, mais en effet, on a le retour, on a de bonnes nouvelles. On a le retour qui est confirmé des primo-accédants. Mais avec, rappelons-le, la difficulté qui est toujours la même, à savoir que les primo-accédents, bah, généralement quasiment à 100%,
mise en empreinte.
Il passe par la case crédit. Et qu'aujourd'hui, bah grâce justement à beaucoup de médias, la publicité qui est réalisée par différentes banques, en effet, les vannes s'ouvrent à nouveau. On peut constater que les primos sont de retour. Donc ça, c'est l'extrêmement, c'est la très bonne nouvelle. La difficulté, en revanche, c'est d'aligner les planètes.
Entre les acheteurs et les vendeurs. Non, mais juste d'abord, on va rester un tout petit peu sur les acheteurs, Brice, avant de passer aux vendeurs, mes amis.
Les acheteurs, on dit effectivement les baisses de taux, elles sont réelles. Elles sont pas dingues, mais elles sont réelles par rapport à la fin de l'année dernière, depuis ce premier trimestre et ce deuxième trimestre qui a été entamé en avril. Là, on en est où dans leur capacité d'achat? Vous nous dites, ça y est, il y a un retour des acheteurs et des primo-accédants. Est-ce que on peut vraiment dire que là, ils sont désormais en capacité de passer à l'acte et qu'ils ne l'étaient pas en fin d'année dernière?
Alors, ça dépend de quoi et de quelle période on compare les choses. Pour faire très court, vous parlez des taux. Les taux, en effet, la bonne nouvelle, c'est qu'ils se stabilisent, voire en effet, ils baissent. Maintenant, toujours le même exemple. Le prix moyen aujourd'hui en France, c'est 300 000 euros. C'est un peu moins, on va arrondir à 300 000 euros. Un couple qui gagne 4 200 euros par mois, on lui prêtait en 2021 300 000 euros. Le même couple aujourd'hui, on peine à le financer à 225 000, 230 000 euros.
À l'heure actuelle, hein.
À l'heure actuelle.
Donc, oui, quoi qu'il arrive, donc attendez, là
non,
on
non,
est.
Si je peux me permettre, non, c'est pas quoi qu'il arrive, c'est que on espère un scénario, le meilleur scénario au niveau des taux serait de descendre, enfin d'atteindre les 3% d'ici début d'année prochaine, voire fin d'année. Donc ça veut dire 0,5 de mieux. Ce qu'il faut vraiment expliquer à celles et ceux qui nous écoutent, c'est que 0,5 de taux d'amélioration, ce n'est que 10 000 euros de gagné auprès de la banque. Mmh. Donc une fois de plus, entre 300 et 225, la difficulté, c'est d'aligner les planètes. Donc l'idée, c'est d'expliquer de la meilleure façon qu'il faut pour rassurer et pas inquiéter les propriétaires, de leur dire la bonne nouvelle, c'est qu'on devrait logiquement aligner les planètes et vous trouver un acquéreur. La moins bonne, c'est que votre bien est sur un secteur qui concerne aujourd'hui des acquéreurs qui vont mécaniquement, nécessairement passer par la case crédit.
Et qui et bien ont, quoi qu'il arrive, perdu du pouvoir d'achat immobilier.
Aujourd'hui,
là, vous nous disiez quoi? 3? Alors, je regarde ce que vous avez bossé au réseau L'Adresse, vous avez bossé avec Sandrine Alonier de chez Vous Financer pour essayer de faire bon an mal an.
Exactement.
Ce qu'on peut s'offrir. On reprend notre ménage qui, en 2021, empruntait 300 000 euros. Si on tombe autour de 3,2%, vous nous dites on sera en fin d'année, hein, on n'y est pas encore, hein, on est plutôt pas très loin encore des 4%, 3,8, 3,9 ouais, hein, aujourd'hui. Donc si en fin d'année on est à 3,2, ce qui serait quand même génialissime, on ne serait qu'à 244 000 euros de capacité d'emprunt versus 300 000
exactement.
Il y a deux
c'est
ans,
pour ça que la difficulté, c'est que les vendeurs, et je le comprends parfaitement, ont compris finalement ce qui les intéresse et ce qui les arrange. Donc ils ont gardé, si vous voulez, le prix fort. Le prix fort, il faut revenir en 2021 versus 2022. On est en 2024. On a beaucoup parlé d'inflation avec l'augmentation du blé, etc. Sur le logement aujourd'hui qui pèse, bah vous le savez, énormément sur le budget d'un ménage, c'est 400% d'inflation qu'on a eu. C'est très facile à retenir, hein. 2021, c'est 1. 2022, c'est 2. 2023, c'est 3. 2024, on a démarré à 4.
Donc, et justement, alors par rapport à ça, Brice, donc on a des acheteurs qui récupèrent une quinzaine de milliers d'euros par rapport à la fin de l'année dernière. Ok, c'est une bonne nouvelle quand même. C'est pas un game changer, mais c'est une bonne nouvelle.
Je rappelle qu'on parle uniquement des primo-accédants là, dans cette simulation.
Ah bah non, du coup,
les primos sont, c'est le profil qui fait qu'un marché est dynamique ou pas. Leur présence sur le marché, c'est ça. En gros, c'est l'impact sur le curseur. Et en effet, c'est pas prendre un grand risque de dire qu'un primo qui sorte, qui part de chez ses parents ou qui part d'un marché d'une location, généralement les primos, on peut pas dire qu'aujourd'hui on est dans une période d'inflation compliquée pour tous les ménages, les premiers concernés, les primos, généralement ils arrivent pas avec 50 000 ou 100 000 euros d'apport. Donc ceux-là, ils passent par la case crédit. Les mêmes à qui on a clairement fermé les portes en 2023, faut le dire, hein. C'est pas du tout un fantasme mal placé, c'est une réalité. Les primos n'étaient plus les bienvenus auprès des banques.
Mais
aujourd'hui ils reviennent avec l'argent qui a changé de camp. Elle est passée de la poche des vendeurs jusqu'en 2022. Elle a basculé côté banque 2024. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, il faut la modérer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'emballer.
Exactement. Et donc, du coup, la corollaire de tout ça, c'est de dire, effectivement, primo, mais quoi qu'il arrive, tous les acheteurs ont récupéré un tout petit peu de capacité d'emprunt par rapport à la fin de l'année dernière.
Oui.
OK. Pas suffisamment pour compenser tout ce qu'on a perdu sur la hausse des prix.
Exactement.
Donc, du coup, on en est où des prix? Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont toujours orientés sur une espèce de baisse un peu modérée? Parce qu'au final, la baisse de 2023, elle n'a pas été dingue. Est-ce qu'on est toujours orienté à la baisse? Ou est-ce que vous avez l'impression, et c'est ce qu'on redoutait depuis le début de l'année et les assouplissements des banques, c'était qu'en corollaire on puisse avoir des vendeurs qui disent « Oh, bah, moi je ne vais pas baisser mon prix ». On en est où au niveau des prix?
Alors, pas du tout que je vais me défausser de la réponse, mais depuis qu'on a vécu la période singulière de confinement et autres, les cartes ont été rebattues, elles ont été rejouées, tant mieux. Et aujourd'hui, très franchement, les choses ne se passent pas du tout de la même manière en fonction de quand et où on se trouve.
Bien sûr.
Très franchement, si vous êtes sur un marché, comme je le disais, un marché où vous avez la nécessité d'avoir justement les primo-accédants ou clairement les autres qui vont également passer par la case crédit, c'est une fois de plus extrêmement mathématique et mécanique. Vous n'avez pas d'autre choix que de baisser les prix. Vous modérez l'emballement de la baisse de prix, mais enfin, il me semble quand même qu'ici, on a été les premiers à débattre de est-ce que Paris va dépasser le cap des 11 000 euros. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais ouais. Je fais partie de ceux qui avaient dit que ça dépasserait pas les 11 000 euros. Très franchement, vous dites, ouais, ça baisse pas tant que ça. Aujourd'hui, on est en train de se poser la question de savoir si on n'est pas en dessous de la barre de 10 000. Mmh. Donc aujourd'hui, très franchement, ce qu'il faut retenir, c'est que la bonne nouvelle pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est qu'en gros, le temps est à la négo. Parce que je sais ce que je suis bien renseigné.
Ah, mais là, vous faites votre agent immobilier, Brice.
Non, je ne fais pas mon agent immobilier.
Mais si.
Je sais parce que je suis bien renseigné que vous pensez, si je peux me permettre, à tort, que la bonne stratégie pour les acquéreurs, c'est d'attendre. Je reste convaincu que le temps joue à la faveur de personne. L'attente n'est pas le bon choix.
Je reprends votre métaphore, Brice. En début de séquence, vous nous avez dit, je vais faire un parallèle avec la météo. On est frileux. Bon, moi, je vais vous répondre très pro-business et très pratico-pratique. Il n'y a pas de mauvais temps. Il n'y a que des mauvais habits. Donc, pour les investisseurs qui sont bien équipés, qui sont bien habillés, qui sont bien au chaud, là, s'il fait un peu froid dehors, on y va et on y va avec quel état d'esprit ?
Ah ben là, les investisseurs, je ne sais pas si c'est le bon profil dont il faut parler, mais on peut en parler. Les investisseurs, j'ai presque envie de vous dire que c'est pas le profil que je conseille le plus à un vendeur, parce que les investisseurs aujourd'hui, ils sont 100 fois ni loi. C'est-à-dire que les investisseurs, le principe du mot investir, c'est rentabilité. Donc si vraiment on parle des investisseurs, il y en a même certains, ceux-là, bon, on les prend pas nous très au sérieux, c'est parfois certains qui même vous appellent et vous proposent de vous faire une offre sans avoir vu le bien. Un investisseur aujourd'hui qui arrive avec une capacité d'emprunt, c'est-à-dire sans passer par la case clause de financement et d'octroi d'un prêt, généralement c'est pas celui qui va le plus arranger le vendeur.
Pourquoi non ? Bah, il va essayer de négocier
parce qu'il va négocier le prix pour pouvoir obtenir la meilleure rentabilité lorsqu'il va louer son logement ou le revendre. Si
oui, mais en quoi le fait qu'il essaye garantit que ça va marcher ?
Ah non, mais d'essayer, ça fait de mal à personne. Mais véritablement, nous, l'alignement de planète qu'on fait, le meilleur acheteur à conseiller pour un vendeur, c'est l'utilisateur. C'est celui qui va se projeter. Et tout à l'heure, je parlais, alors vous avez raison, en effet, on peut se couvrir avec des habits adaptés, etc. Et à nous, justement, Réseau Immobilier, l'adresse de trouver des outils, des services pour pouvoir mieux les couvrir, sans vouloir jouer avec les mots, et mieux les garantir sur les semaines et les mois à venir. Quand je parlais de frilosité, c'est qu'aujourd'hui, le moindre prétexte peut être prétexte à annuler ou à revoir le projet. Et des projets parfois engagés, et parfois bien engagés.
Non mais Brice, c'est pour ça que je dis que vous faites l'agent immobilier.
C'est ce que je suis, hein. J'assume parfaitement.
Non, mais
vous savez je suis agent immobilier avant d'être président du réseau.
Non, mais à dire, faut pas attendre. Évidemment, moi je suis la première à dire, de toute façon, le bon moment pour acheter, c'est le vôtre. Donc voilà, mais le fait est qu'aujourd'hui, vous avez effectivement des vendeurs qui peinent à accepter de baisser les prix et qui préfèrent limite devenir, à moyen long terme, un vendeur pressé qui t'a accepté n'importe quoi, parce que pendant un moment, il ne veut pas perdre la face. Et donc, la difficulté pour un acheteur, vous dites qu'il faut négocier. Évidemment, le meilleur acheteur, ce n'est évidemment pas l'investisseur qui s'y connaît, en fait. C'est l'accédant. Hein. Donc, à un moment donné, moi, je suis accédant, primo ou pas. Je me rends compte des difficultés à convaincre le vendeur. Je fais comment, si ce n'est attendre que le mec finisse par se dire ça fait trop longtemps.
Bah, vous passez par un agent immobilier, vous ne parlez pas au vendeur. Vous passez par un agent immobilier, excusez-moi d'être en boucle.
Et donc, votre boulot aujourd'hui, Brice, très clairement, c'est de dire au vendeur, à un moment donné, il va falloir que le prix baisse. Donc, on est bien d'accord là-dessus.
Mais on est complètement d'accord là-dessus.
Mais vous les constatez. Moi, ma question, c'est est-ce que vous constatez ces vendeurs qui freinent, qui...
Ah, bien sûr qu'on les constate. Je peux même vous donner les exemples, justement, d'agents immobiliers, notamment à Vitry-sur-Seine. Pourtant, il y a le métro qui est en train d'arriver. À Vitry-sur-Seine, j'ai une agence depuis maintenant une quinzaine d'années. Eh bien, on a un ou deux vendeurs qui ont voulu jouer le côté, le fameux je suis pas pressé. Si demain, on devait écrire une pièce de théâtre ou un film sur l'immobilier, moi, personnellement, le titre, je le connais, c'est je suis pas pressé. Et très franchement, on en a certains qui, sur le fait d'avoir attendu un an, parce qu'il n'y avait pas forcément une obligation dans le projet de la réalisation, sur un an, ils ont perdu 20%. Et pas forcément sur des produits type les fameux dont on parle depuis souvent, les passoires énergétiques, ouais, etc. On parle de produits même atypiques avec un bout de terrasse, etc. Ben sur ces mêmes produits-là, le fait d'attendre, c'est moins 20% pour le vendeur dans sa poche.
Je vous renvoie à la séquence de finances comportementales que nous avons fait il y a une grosse heure sur ce qu'on appelle l'effet de disposition, à retrouver en podcast et en replay sur notre site avec Julien Nebenzal. C'est cette tendance des investisseurs à vendre trop tôt ou surtout à conserver trop longtemps des actifs dont la valeur chute.
Ouais, mais c'est exactement ça, Lorraine.
C'est exactement ça. Non, le vrai sujet aujourd'hui, c'est l'acquéreur. C'est l'acquéreur qui pourrait, à tort ou à raison, se contenter de voir, en effet, la phase la plus visible de l'iceberg. C'est quand des médias comme le vôtre, et on va pas les condamner, je suis le premier à vous dire aujourd'hui, le marché mécaniquement doit et va baisser. En sortant, une fois de plus, toutes les exceptions qu'on connaît, l'attrait de la Riviera, PACA, etc.
Ouais,
etc. Bref, prenons vraiment ce qui concerne aujourd'hui les Français et les Français, c'est-à-dire le côté macro. Au niveau macro, en effet, c'est d'expliquer aux acheteurs pourquoi c'est le bon moment. Ben, je répète, je suis désolé, je fais mon agent immobilier, que je suis. C'est le temps de la négo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut quand même pas se oublier que pendant presque 8 années d'affilée, les acquéreurs ont complètement perdu la main. C'était limite, moi je vous le dis, c'était extrêmement frustrant pour eux et pour nous en tant qu'acquéreurs. Vous appeliez, on vous disait
c'est trop tard.
Vous prenez le rendez-vous, vous arrivez, vous dites, on préfère vous prévenir. Il y a une offre, vous arrivez finalement, il y avait une espèce de frustration. Pareil, je passe d'un sujet une fois de plus, parce que je sais que ça a été l'objet d'une interview ici. Sur aujourd'hui, en effet, il y a des annonces qui viennent un peu piper le marché en disant finalement, à certains endroits, voire même globalement, le marché repart.
Ouais.
Mais l'annonce, ça ne veut pas dire le prix signé.
Ah, mais ça, je l'ai bien dit. Alors, Brice, on va se dire très franchement les choses. C'est-à-dire, il y a une grosse décorrélation entre le prix affiché et le prix d'un bien réellement vendu. C'est là où je veux vous emmener, Brice. C'est-à-dire de voir la frilosité de façade des vendeurs qui se rendent bien compte que s'ils veulent vendre, au final, les biens qui se vendent, ce sont des biens qui sont avec des décors.
Eh bien, vous faites bien de m'amener parce que justement, vous m'embarquez. Je vais vous répondre de manière très claire. On a un constat aujourd'hui, c'est vachement intéressant parce que l'idée, c'est quand même d'humaniser les comportements dans les acquisitions, pas de se contenter d'aller des chiffres avec Excel. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les Français, ils veulent pas être déçus, ils veulent pas être frustrés. Donc un Français, quand il visite un bien, en gros, il se fixe lui-même son seuil de négociation. Et uniquement sur certains biens, parce qu'on a, nous, des informations, parce qu'on sait qu'on est en train d'entamer un vrai travail de négociation auprès du vendeur, et on sait quelque part qu'on y est presque, à nous, quand on les relance, de leur dire « je sais, vous êtes fixé 4-5% au-dessus de votre budget, pas plus, parce qu'en gros, vous pensez que c'est la marge de manœuvre qui est réelle ». Mais sur ce type de bien, on vous invite vraiment à venir le voir, vous ne regretterez pas. En gros, pour vous dire que de surestimer un bien, parce que c'est le dernier qui a parlé, qui vous dit finalement, l'oiseau rare, on va l'avoir dans l'agence, et vous allez vendre ce bien 5-6% limite avec une augmentation, ce n'est pas le bon choix. Bon. Parce que, une fois de plus, les acquéreurs, ils se freinent eux-mêmes. En fait, un bien aujourd'hui, entre ce qu'il est diffusé et ce qu'il est négocié, la marge, il y a certains qui peuvent aller parfois jusqu'à 8-9%,
oui,
mais généralement, la négociation, elle se fait avant par l'agent immobilier. C'est nous qui l'avons.
Très rapidement, parce qu'il nous reste une demi-seconde, perspective de prix, de volume de transactions et de délai de vente selon vous, Brice, pour cette année 2024.
Rapidement, rappel, très vite, déjà de constater que ce qui est parti un peu à volo, c'est à l'aube du deuxième semestre de 2023. Avec un printemps extrêmement médiocre déjà à l'époque, mais le constat s'est fait sur les compromis qui est tardé déjà avec tout ce qu'on sait, la filière qui est grippée, etc. Mais le vrai constat, c'est que le décrochage s'est fait au deuxième semestre 2023. Aujourd'hui, force est de constater, c'est la bonne nouvelle, c'est que par rapport à tout ce qu'on s'est dit, les primos qui sont de retour, les banques qui ouvrent les vannes, qui le font savoir, etc. On a aujourd'hui, au premier trimestre 2024, plus que des frémissements qui apportent la preuve que ça va beaucoup mieux que de la façon dont on a terminé l'année. Je parle d'appels, de visites et d'offres. En revanche, ça reste extrêmement modéré. Actuellement, nous, au niveau du réseau, si on constate le premier trimestre 2024, c'est moins 15%. Mais une fois de plus, avec
volume
beaucoup
de
volume de vente, si je le compare avec la même période en 2023. Je pense que le vrai comparable intéressant, c'est celui dans lequel on rentre. Parce qu'on va pouvoir comparer finalement une mauvaise année en 2023 avec une année 2024. Est-ce qu'elle reste mauvaise?
Ou un peu meilleure. Donc, perspective quand même, baisse de transactions encore pour cette année?
Alors, pour l'instant, malheureusement, au niveau des volumes, je le sais parce que la FNAI, on en a parlé il y a quelques temps, annonce que les baisses seront, enfin que les volumes seront moins bons en 2024 qu'en 2023. Je reste convaincu qu'il va y avoir une situation de rattrapage par rapport à tous les projets qui ne se sont pas réalisés en 2023 et qui, avec les banques et avec des professionnels aguerris, vont permettre en termes de volume d'être mieux que 2023. Donc je pense sur les volumes que ça ne sera pas aussi catastrophique que ce qu'on imagine. En revanche, au niveau des prix, je reste convaincu avec toutes les nuances qu'il faut avoir en fonction des disparités de là où on se trouve, du type de bien concerné, que mécaniquement, nécessairement, avec des taux stabilisés ou même qui baisseraient de 0,5, on va obligatoirement être sur une baisse de prix.
Voilà, merci beaucoup Brice Cardy, le PDG de l'Adresse, et Marie Carderoy pour cette prise de pouls immobilier. Merci de nous avoir donné un petit peu de... pas de l'espoir, j'allais dire du grain à moudre. À demain pour une autre séquence d'immobilier. À suivre, on va parler de votre assurance vie et on va parler d'or. À tout à l'heure.
Tout pour investir sur BFM Business. BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Tout pour investir et faire bon usage de votre assurance vie. Nous sommes avec Alice Labou. Bonjour Alice.
Bonjour.
Vous êtes présidente de Trecento Asset Management. Avec nous pour traiter des cas très pratiques, hein, de situations où on vous propose une assurance vie, vous voulez y aller, vous avez peur, bref. Mais aussi répondre aux nombreuses questions que vous nous adressez depuis le début de cette émission, car nous avons traité dans la première heure le sujet de la transférabilité du PEA. Nous avons également évoqué la non-transférabilité de l'assurance vie et ça vous inspire moult questions. Alice va répondre à quelques-unes, évidemment, si on le peut, dans le temps imparti, évidemment, dans l'espace de réflexion aussi limité dans lequel nous sommes. D'abord, un cas pratique, si vous voulez bien, Alice. Ça va parler à ceux et celles qui nous écoutent. Mon banquier me pousse à ouvrir un contrat d'assurance vie, mais j'ai peur de bloquer mon argent et de ne pas pouvoir en disposer si j'en ai besoin. Ça vous parle sans doute, cher auditeur. Que fait-on ?
Alors d'abord, votre banquier a raison. C'est-à-dire que c'est une bonne idée d'ouvrir un contrat d'assurance vie et on va volontiers expliquer pourquoi. L'idée, c'est vraiment de se dire que l'argent n'est pas bloqué. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une forme de légende urbaine autour de la thématique de l'argent est bloqué pendant 8 ans, donc j'ai pas envie de mettre cet argent de côté. Si jamais j'en ai besoin, je souhaite pouvoir en disposer. La bonne nouvelle, et maintenant, on commence à le savoir, mais c'est important de le dire et de le redire, votre argent n'est absolument pas bloqué. Dès le lancement de votre contrat d'assurance vie, vous pouvez récupérer toute ou partie des sommes investies et même des bénéfices que vous avez potentiellement réalisés. Ce qui va faire la différence, pourquoi est-ce qu'on parle de ces fameux 8 ans dans les contrats d'assurance vie ? C'est juste la fiscalité, c'est-à-dire que vous allez payer plus d'impôts sur la plus-value avant les 8 ans et moins d'impôts sur la plus-value après les 8 ans. Mais la différence n'est pas si énorme que ça, puisque avant les 8 ans, si jamais vous retirez de l'argent, donc tout ou partie de l'argent, c'est seulement la plus-value qui va être imposée. Ça, c'est très important de le dire, c'est pas l'argent que vous avez mis initialement qui va être imposé. Heureusement que vous avez déjà payé plein d'impôts pour mettre des sous de côté. Donc je pense que là, on est bon. Donc quand vous générez de l'argent au sein du contrat d'assurance vie, cette fameuse plus-value avant les 8 ans va être imposée soit à ce qu'on appelle la flat tax, c'est-à-dire à 30%, soit à votre impôt sur le revenu. Donc si vous êtes imposé par exemple à 15% en impôt sur le revenu, vous avez intérêt à choisir d'être fiscalisé en impôt sur le revenu et pas en flat tax à 30%. Après les 8 ans, c'est un peu différent. C'est 24,7% d'impôt sur la plus-value ou à nouveau votre taux d'imposition personnel sur le revenu. Donc à nouveau, si vous payez moins que 24,7% en impôt sur le revenu, vous avez intérêt à opter évidemment pour votre impôt sur le revenu. Donc en fait, ces fameux 8 ans, c'est juste une histoire fiscale, mais ça n'a aucun impact évidemment sur votre obligation de conserver l'argent dans le contrat. Donc ça, c'est fondamental.
Dans le cas qu'on évoque, on n'a pas d'assurance vie, on a du cash à placer, on a peur de bloquer son argent. Donc si on vous a bien écouté, on comprend qu'il n'est pas bloqué, qu'on peut y recourir si on en a besoin. Pourquoi est-ce qu'on arbitrerait a priori en faveur d'une assurance vie plutôt par exemple qu'un PER qui offre un ensemble de conditions favorables de cas de déblocage anticipé?
Oui, alors c'est pas tout à fait la même chose. Si vous voulez, le plan d'épargne retraite a vocation à préparer votre retraite. Donc, a priori, vous devez laisser cet argent pendant un certain temps. Donc oui, il y a des cas de déblocage anticipé, mais ils sont quand même assez minimes au regard de l'assurance vie. Il suffit que vous envoyez un papier de rachat à votre compagnie d'assurance vie et vous récupérez votre argent. Je pense que la combinaison des deux est plutôt intelligente. Alors, le plan d'épargne retraite, il n'y a pas d'avantage successoral. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas évoqué là, mais vous savez qu'un contrat d'assurance vie, pourquoi votre fameux banquier sur la question numéro 1 disait il faut que vous ouvriez un contrat d'assurance vie, tout simplement parce que dans le cadre de la succession, s'il vous arrivait quelque chose, il y a jusqu'à 152 500 euros par bénéficiaire que vous aurez désigné dans votre contrat d'assurance vie en totale franchise de droits de succession. C'est-à-dire que vous ne paierez pas d'impôt sur les successions, et Dieu sait que ça peut être assez violent parfois, vous ne paierez pas, en tout cas pour chaque bénéficiaire, jusqu'à 152 500 euros. Alors qu'un plan d'épargne retraite, ce n'est pas du tout le même système. Vous n'avez aucun avantage fiscal en matière de succession, et puis ce n'est pas dit que vous... Enfin, selon le type de plan d'épargne retraite, ce n'est pas dit que vos héritiers récupèrent l'argent que vous avez mis de côté pour votre plan d'épargne retraite. On sait très bien bien qu'à l'époque du Madelin, c'est-à-dire c'est l'ancêtre du plan d'épargne retraite, il y avait cette problématique. Il y a des gens qui ont mis plein d'argent de côté et qui malheureusement sont décédés peu de temps après la retraite. Et bien toute la rente Madelin est restée à l'assureur. D'ailleurs, ça leur a fait, enfin voilà, ça a été plutôt des avantages, voilà, non négligeables pour les assureurs, alors que les héritiers n'ont rien touché. Donc c'est pas du tout les mêmes outils. Les deux ont des avantages, mais on peut pas substituer l'un à l'autre.
Voilà, on l'entend parfois, la combinaison est une solution. Autre question très pratico-pratique, et je suis sûre que beaucoup de nos auditeurs, auditrices, se la posent ou se la sont posées il y a quelques mois. Mon contrat d'assurance vie ne rapporte rien. Est-ce que je dois changer d'assureur? Je dirais même, est-ce que je peux changer d'assureur? On va parler de transférabilité.
Exactement. Alors, la question de la transférabilité, évidemment, est centrale. Malheureusement, aucune décision n'a été prise en ce sens. Il en a été question dans le cadre de la loi Pacte. Mais finalement, la puissance et la détermination des assureurs à mettre en place une non-transférabilité a fonctionné. Puisque non, vous ne pouvez pas transférer votre contrat d'assurance vie. Alors, une fois que vous l'avez ouvert, vous l'avez ouvert. Alors la bonne nouvelle, c'est quand même que vous pouvez en ouvrir plusieurs.
Oui.
Donc vous pouvez dire, ben, moi je ne suis pas content de ce contrat, donc je préférerais ouvrir un autre contrat ailleurs, et donc vous ouvrez un second, un troisième, un quatrième. Il n'y a pas de règle en matière de nombre de contrats d'assurance vie, simplement ça oblige à disposer du cash, évidemment, pour réouvrir un contrat, donc, ou alors retirer de son contrat pour remettre dans l'autre, mais c'est rarement recommandé. Mais ça peut totalement se faire si on n'est pas content de la relation. Voilà, la seule transférabilité qui a été mise en place, c'est celle des commission, c'est-à-dire qu'en fait vous pouvez choisir de changer d'intermédiaire et que le nouvel intermédiaire, donc par exemple vous avez un conseiller en gestion de patrimoine, vous avez ouvert avec lui un contrat d'assurance vie, évidemment vous savez qu'il touche des commissions sur votre contrat d'assurance vie. Bon, vous n'êtes plus content du service, il ne vous répond plus au téléphone, ça se passe pas très bien, ce qui peut arriver parfois, vous vous dites, bah, vous rencontrez quelqu'un d'autre qui vous plaît bien et avec qui vous avez envie d'avoir une vraie relation de conseil, et bien là vous demandez à l'assureur de changer en fait de référent en matière d'intermédiation, et donc les commissions peuvent arriver à ce nouvel interlocuteur. Alors ça peut prendre 6 mois, 12 mois, enfin voilà, ça,
ouais,
ça peut être un peu long, voilà, exactement. Néanmoins, ça c'est possible. Donc sur le premier volet de la transférabilité, ça n'est pas encore le cas. Je pense que c'est bien dommage parce que je crois qu'on a le droit de disposer de son épargne. Je vois pas pour quelle raison, je veux dire, comme je disais tout à l'heure, on a travaillé beaucoup pour mettre des sous de côté, on a payé beaucoup d'impôts sur le chemin, donc je pense que c'est bon. On a le droit de disposer de son propre argent. Néanmoins, pour l'instant, ce n'est pas tout à fait possible. C'est pour ça qu'il faut bien choisir son assureur et son intermédiaire. Après, au sein du contrat, si on me dit, Alice, je trouve que je ne gagne rien, j'en ai marre de gagner 1% par an, j'ai mis plein de sous et puis finalement, je ne gagne rien, ça ne m'intéresse plus l'assurance vie.
1% même, vous perdez.
Voilà. Mmh. Alors, avec l'inflation, bien sûr, vous perdez. Alors, moi, en général, je réponds... qu'est-ce que vous avez choisi de mettre au sein de votre contrat d'assurance vie? Parce que l'assurance vie, c'est comme le PER, c'est juste une enveloppe fiscale, en fait. C'est une enveloppe dans laquelle vous allez pouvoir choisir ce que vous allez mettre à l'intérieur. Et ce que vous allez mettre à l'intérieur, évidemment, ça dépend du risque que vous souhaitez prendre, mais aussi de votre volonté de performance. Si vous voulez... pas prendre de risque, ben vous aurez très peu de rendement. Si vous acceptez de prendre un peu plus de risque, vous aurez plus de rendement. La boîte à outils qui est le contrat d'assurance vie, vous permet de faire un nombre d'investissements incroyables. Vous avez le fameux fonds en euros des compagnies qui est la partie sécurisée, c'est bien, mais franchement, pour gagner de l'argent, c'est quand même pas idéal. Après, vous avez une multitude de fonds d'investissement, de véhicules collectifs dans lesquels vous pouvez investir. Évidemment, des fonds actions, j'en parle souvent ici, ça peut être sur des thématiques, sur des zones, donc des régions, des zones géographiques, ça peut être sur des types de taille d'entreprise côté en bourse. Vous avez aussi des fonds qui sont des fonds obligataires, donc vous allez prêter de l'argent à des entreprises qui vont vous rémunérer avec un taux d'intérêt. Alors tout ça mutualisé dans des fonds, ça peut être intéressant dans certains contextes. Il faut bien penser à la notation évidemment des sociétés à qui vous prêtez de l'argent, en tout cas des fonds qui prêtent de l'argent. Vous pouvez aussi investir dans de l'immobilier. Alors c'est moins tendance aujourd'hui, mais il y a eu un énorme succès des SCPI, oui, des SCI. On le sait qu'on collectait des milliards et des milliards. Le goût pour l'immobilier des Français...
Passion de la pierre.
La passion de la pierre s'est exprimée aussi dans les contrat d'assurance vie. Donc vous pouvez acheter de l'immobilier dit mutualisé à travers ces SCPI SCI, et là ça vous offre aussi un rendement qui parfois peut être intéressant. Vous pouvez acheter aussi des produits structurés, on en avait parlé ensemble, hein. Les produits structurés qui vont sur mesure potentiellement vous apporter du rendement et des garanties en capital ou des protections en capital. Donc si vous dites, bah moi j'ai envie de faire 4,5% par an, ça me va très bien, je veux que mon capital soit le plus protégé possible, et bien je vais demander à mon interlocuteur de me créer ou de trouver un produit qui va être structuré par une banque et qui va m'offrir cette opportunité. Et donc je ne veux pas le risque action classique ou le risque obligataire classique. Donc comme vous le voyez, en fait il y a vraiment la possibilité de faire une forme de mélange, si vous voulez,
une combinaison. Une enveloppe fiscale. Il faut le rappeler.
Il faut vraiment garder en tête, c'est une enveloppe fiscale et à l'intérieur, vous y mettez ce que vous voulez. Donc pour celui qui aujourd'hui se dit « Oh, ma banque m'a vendu un contrat d'assurance vie et je gagne rien », je recommande d'appeler son banquier et de dire « Pourriez-vous me donner la liste des supports qui sont éligibles à mon contrat d'assurance vie ?» Il va vous envoyer une liste avec des codes ISIN qui parfois peuvent paraître compliqués. Donc soit vous-même, vous faites des recherches et vous regardez l'ensemble des supports et vous vous dites « Tiens, celui-là, il a des bonnes performances, il m'intéresse, j'ai envie de le mettre dans mon portefeuille. » Et puis vous appelez votre banquier en disant « Écoutez, maintenant je veux prendre la main et voilà ce que je veux que vous mettiez sur mon contrat. » Soit bah, finalement c'est un peu compliqué, ça prend beaucoup de temps, vous n'avez pas envie de passer un temps fou à regarder les différents fonds. Vous demandez du conseil, soit à votre banquier, soit à un conseiller en gestion de patrimoine qui en général connaît bien le sujet.
Xavier, un autre Xavier, on a deux Xavier qui nous ont écrit aujourd'hui. Là c'est Xavier P. nous disait dans le prolongement de notre sujet sur l'assurance vie de la première heure qu'il est effectivement possible d'ouvrir une deuxième assurance vie dans un autre établissement pour se libérer de la problématique de transfert. Avoir deux assurances vie, 3, 4, 5, est-ce qu'il y a un chiffre maximum quel est l'incentive, quelle est la motivation d'avoir plus qu'on va dire deux assurances vie?
C'est justement ce que vous disiez, c'est-à-dire c'est d'avoir deux pourvoyeur, on va dire, de produits financiers. Donc, parce que parfois, enfin souvent d'ailleurs, les banques, quand elles vous font ouvrir un contrat d'assurance vie, vous pouvez quasiment investir que sur les fonds de la banque.
Ouais.
Donc, c'est un petit peu limité. Vous voyez, si vous avez envie d'aller chercher des grandes maisons de gestion, des savoir-faire étrangers, des choses comme ça. Donc, vous pouvez dire, bah, à côté de ça, j'ouvre un contrat d'assurance vie auprès d'une plateforme qui est beaucoup plus ouverte, qui va me faire ce qu'on appelle de l'architecture ouverte, et je vais aller chercher des fonds qui m'intéressent. Mmh. Moi, je vois par exemple les fonds que j'ai sur la santé et sur la robotique, ils sont pas éligibles dans les contrats d'assurance vie des banques, tout simplement parce qu'on est une petite société de gestion entrepreneuriale et donc on compte pas pour eux. Et ben il y a certains contrats où c'est possible, donc l'intérêt c'est ça. Et après, je n'ai pas en tête de chiffres limitants sur le nombre de contrats d'assurance vie qu'il est possible d'ouvrir.
Bon, à part faire évidemment attention aux frais qu'on paye, parce que autant d'assurance veut dire autant de frais différents.
Oui, alors oui, autant de frais différents, oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, les frais, le sujet des frais, c'est surtout, en fait, il faut limiter les frais d'entrée, parce que c'est ce qui fait qu'à chaque fois que vous mettez des sous, il y a une quote-part qui s'en va.
Un petit péage.
Voilà, un petit péage, et donc, bah, du coup, quand vous le faites fructifier, c'est plus embêtant. Après, les frais du contrat sont globalement, c'est-à-dire chaque année, vous payez des frais, c'est à peu près harmonisé en France.
On parlait tout à l'heure d'assurance-vie avec le patron de Nalo, plateforme digitale, qui nous racontait l'histoire d'une de ses prospects, ou en tout cas quelqu'un avec qui il échangeait, qui avait 1,5 million d'euros d'actifs dans une banque où elle était cliente depuis 25 ans, et son assurance vie était composée de 37 fonds.
Ah oui.
Et donc, on plaisantait en disant que c'était plus de la diversification à ce moment-là, mais de l'éparpillement. 37 fonds.
Oui, 37 fonds, c'est beaucoup. C'est un choix. Bon, disons que c'est pas ce qui me choque le plus. Ce qui m'aurait le plus choqué, c'est que depuis toujours, elle soit en fonds en euros, par exemple.
Ouais.
Ça m'aurait plus dérangé qu'une énorme diversification. Oui, 37, c'est pas mal quand même.
Ah oui, et donc ça. Je vous dis pas, voilà. Et les frais de gestion du contrat, c'était à peu près 3,3, je crois.
Ah oui.
Donc ça faisait presque 50 000 euros de frais annuels.
Ah oui. Bah, c'est ça. Bah, c'est sympa pour le banquier ou pour l'assureur, mais c'est moins sympa pour le client. Il y a un petit point sur la question des 70 ans, quand même, qu'on n'a pas évoqué.
Allez-y, rappelez-nous. Hein,
juste très rapidement, en fait, il faut ouvrir son contrat d'assurance vie avant 70 ans, parce que après vous avez moins d'avantages fiscaux en termes sur la taxation sur la plus-value, et puis même pour la partie successorale, vous avez moins d'avantages sans droit de succession pour vos bénéficiaires. Donc surtout, avant 70 ans, ouvrez un petit contrat, ça coûte pas grand-chose, mais ça vaut le coup de le faire.
On aurait pu débattre de cette proposition de loi
Husson-Montgolfier, qui date de 2023, qui tentait d'apporter des solutions, en tout cas qui ouvrait la réflexion sur le sujet de la transférabilité des contrats d'assurance vie. On le rappelle, aujourd'hui, on ne peut pas transférer son assurance vie.
Alors,
moi, je reste en bloc dessus depuis 10 heures.
En fait, c'est des politiques que vous devriez inviter pour parler de ça, parce que c'est un sujet politique et ça mérite une grande conversation, même autour du financement de la dette de l'État. C'est-à-dire, posez-vous de la question, qui finance la dette de l'État français ? Qui sont les investisseurs de long terme en France et pourquoi est-ce que ces fameux transferts de contrats d'assurance vie ne sortent pas ? C'est-à-dire, politiquement, il n'y a pas de, c'est pas acté. Donc je pense que tout ça, c'est un intérêt collectif. C'est pas particulièrement une théorie spécifique, mais c'est l'intérêt des assureurs qui est pas de transférabilité et c'est l'intérêt de l'État de chouchouter les assureurs.
Mais vous avez raison, Alice Labou, présidente de Trecento Asset Management. On va inviter des politiques pour en discuter de ce sujet. On parle souvent de Paul Midi, qui fait pas mal de choses qui nous impactent directement en tant qu'investisseur. Mais c'est vrai, peut-être qu'on pourrait lancer la perche aussi à Jean-François Husson et Albéric de Montgolfier, si je dis pas de bêtises, qui étaient à la tentative de manœuvre de cette réforme de l'assurance, enfin de la transférabilité des contrats. Merci Alice pour ce point très éclairant sur l'assurance vie, sur ces mythes à déconstruire, sur l'argent qui n'est pas littéralement, qui n'est pas tout court bloqué dans l'assurance vie, sur les frais et effectivement la fiscalité. Puis vous avez retenu, il y a 8 ans pour avoir une fiscalité allégée, mais il y a surtout cette deadline des 70 ans pour que ce soit intéressant, cette enveloppe fiscale. Merci beaucoup Alice Labou et l'équipe de Trecento Asset Management. Vous restez avec nous, on va continuer de parler de vos finances personnelles. Un autre mot-clé qui vous est cher, nous allons parler de l'or et plus précisément de l'envolée des prix de l'or. Pourquoi est-ce que ça grimpe en flèche alors qu'on a l'impression que toutes les explications classiques, l'inflation, les taux réels et même l'aversion au risque ne semblent pas tout à fait expliquées. Cette croissance, cette envolée du prix de l'or. À tout de suite.
Tout pour investir sur BFM Business. Tout pour investir. Investir autrement.
Dans quelques secondes, on va faire le point sur l'or, de l'envolée des cours. Mais je voudrais partager quelques réactions d'auditeurs avec vous. On a le débat qui est ouvert sur comment sont rémunérés les CGP. Est-ce que la commission, c'est si une bonne idée que ça ? Et je salue notre auditeur Julien, qui est lui-même CGP et qui nous propose de réagir à l'antenne. On va essayer de l'appeler demain ou après-demain parce qu'il nous raconte comment il fonctionne avec des honoraires de conseil et une part de rémunération à la performance. Et donc, on peut réfléchir à la mutation du métier de CGP. C'est un sujet peut-être qui vous touche en tant qu'investisseur particulier qui est conseiller. Ça peut être au programme des prochains jours si ça vous dit, cher auditeur. Et puis on a Avner, malheureusement, à qui on n'a pas pu répondre dans le direct avec Alice. Avec Alice Labou de Trecento AM, nous parlons de l'assurance vie avec elle, qui nous demande si c'est intéressant pour un jeune actif d'ouvrir son assurance vie. Je pense que la réponse, Avner, c'est oui, parce qu'il s'agit déjà de prendre date. Donc aucune limite, aucune mauvaise raison de ne pas ouvrir son assurance vie dès que c'est possible pour vous en tant qu'investisseur particulier. Je vous donne le programme de demain en attendant d'aller faire notre point sur l'or pour finir cette émission. Demain, nous serons en direct comme tous les jours. Ce sera mardi. Donc nous serons avec Jean-Marc Daniel, notre économiste en chef qui définit chaque semaine, vous le savez, des mots du vocabulaire financier et fiscal. Demain, nous allons définir ce que ça signifie travailler au noir. Aux origines de cette expression, travailler au noir. Et puis demain, c'est mardi, nous serons avec l'ami Christian Fontaine de l'équipe du Revenu. Il sera avec nous pour discuter de ce qu'on peut faire, de ces primes d'intéressement et de participation. Vous le savez, d'ici quelques jours, nous sommes peut-être déjà dans vos entreprises dans cette période où les employeurs, les entreprises versent les primes d'intéressement et de participation. Où les placer ? Combien placer ? Est-ce qu'il faut rester dans son PEE, dans son perco d'entreprise, ou est-ce qu'il faut aller chercher d'autres véhicules, d'autres endroits pour placer cet argent ? Ce sera au programme de notre émission de demain. Si vous voulez réagir et participer à ces sujets qui vous concernent, eh bien c'est très simple. L'adresse est direct@bfmbusiness.fr, mais c'est aussi sur LinkedIn où je vous lis en direct. Vous êtes très nombreux à m'écrire depuis ce matin. Merci pour vos questions, notamment nos deux Xavier qui ont participé à notre antenne. Je vous précise qu'on va également faire le point sur le Bitcoin et le halving qui a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi avec Amaury d'ici quelques minutes. Mais avant ça, nous allons faire un point sur l'envolée de l'or. Pourquoi les prix de l'or grimpent-ils en flèche ? Et pour faire ça, nous sommes en duplex depuis la Suisse, double invité de Suisse aujourd'hui avec Jean-François Faure. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur du groupe Au Coffre. Avec vous, on va essayer d'y voir plus clair sur cette envolée du prix de l'or. D'abord, vous donnez peut-être le cours de l'or. Alors, on se parle, l'once se négocie autour de 2374 dollars. L'once, Jean-François, votre éclairage sur ce que fait l'or depuis quelques semaines, dites-nous.
Oui, alors l'or a beaucoup réagi aux quelques annonces qu'on a pu avoir depuis ces dernières semaines et aussi les événements. Donc tout d'abord, l'or avait beaucoup réagi aux potentielles annonces d'une potentielle baisse des taux d'intérêt, qui d'ailleurs aujourd'hui est remise en question. Mais le simple fait d'annoncer cet événement, même en creux, a été suffisant pour franchir des seuils techniques. Et ces seuils techniques, qui étaient finalement des formes de plafond de verre, ont été traversés. Et depuis, voilà, on évolue dans ces zones qui sont assez élevées. Ensuite, là-dessus, se sont rajoutés des attentats, se sont rajoutés des bombardements. Et on sait que l'or est très sensible aux effets, aux impacts géopolitiques. Et donc là, clairement, il a beaucoup surréagi. Et aujourd'hui, peut-être qu'on on est dans des zones qui sont peut-être très élevées et qui pourraient annoncer des consolidations prochaines.
Mais on a l'impression, Jean-François, quand même, que les fondamentaux, les classiques qui expliquent généralement l'envolée du cours de l'or, là, fonctionnent pas tellement. Ok, il y a de l'inflation. Ok, il y a ces taux que vous évoquez. Mais il n'y a pas tout à fait que l'aversion au risque qui explique que l'or monte autant. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être aussi une manière d'appréhender les marchés actions qui fait que on a moins envie d'y aller et du coup on se tourne vers l'or?
Alors c'est pas qu'on a nécessairement moins envie d'aller vers les marchés actions. D'ailleurs, les bourses sont là pour nous montrer que justement ces marchés sont quand même très soutenus. Mais par contre, il y a une aversion au risque sur les marchés actions. On sait que les cours, le CAC 40, Dow Jones, etc. sont aujourd'hui quand même assez élevés, sur des niveaux que certains même peuvent considérer comme trop élevés. Et pour autant, les cambistes ne veulent pas louper les bonnes affaires. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se protègent. Et en même temps qu'ils continuent d'acheter des actions, et la liquidité est là pour les acheter, donc ce serait dommage de ne pas en profiter, eh bien, en parallèle, ils se couvrent par de l'achat d'or. Et là, je parle de réaction humaine, mais même les robots de trading sont programmés aussi pour ce genre d'action. Et c'est aussi une des raisons qui dope le cours de l'or actuellement.
Il y a aussi, évidemment, les achats des banques centrales. Je vous donne un chiffre, c'est la Banque centrale indienne qui figure parmi les principaux acheteurs avec 19 tonnes d'or acheté depuis janvier. Je voudrais vous poser une question, juste Jean-François, pour finir ce point du lundi, si je puis dire, sur les ETF. On voit que les ETF or, c'est pas exactement des ETF, mais bon, bref, pour faire simple, n'ont pas attiré énormément de flux, ce qui suggère qu'on préfère plutôt s'exposer à l'or physique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Ben oui, en fait, les ETF, alors c'est un moyen extrêmement simple et pratique d'acheter de l'or, mais tout le monde sait que derrière les ETF, la contrepartie n'est pas de 100%. Et donc aujourd'hui, ceux qui deal un petit peu les fortes valeurs de l'or, et on parlait notamment des banques centrales, ce n'est pas du papier qu'ils veulent acheter parce que l'or, ils veulent l'avoir dans leur coffre-fort. C'est à peine caricatural, c'est exactement ça. Et donc voilà, on est là-dessus. Après, il faudra quand même faire attention justement à la surchauffe parce qu'on détecte déjà que dans certaines zones, le cours très élevé de l'or physique, et notamment on le voit en Inde, peut calmer les ardeurs des acheteurs, notamment de bijoux, puisque c'est quand même 60% du marché de l'or reste quand même l'industrie joaillière. Et donc là, on est sur une surchauffe qui démotive actuellement les acheteurs, et donc ça pourrait être peut-être le point de départ d'une future consolidation.
Et oui, vous nous avez parlé de l'Inde, mais on aurait pu rappeler aussi que c'est la Chine et la Pologne, dans le top 3, qui font aussi les banques centrales de la Chine et de la Pologne, qui font aussi évidemment, qui ont cet intérêt pour l'or physique. Merci beaucoup Jean-François. Jean-François, on vous rappellera depuis la Suisse pour continuer à décrypter ces prix de l'or. On aurait pu parler de l'argent avec vous, si ça vous va. La prochaine fois qu'on se verra, vous nous parlerez peut-être
avec
un peu d'argent.
Plaisir.
Jean-François Faure, depuis la Suisse, président, fondateur du groupe Au
coffre avec nous sur BFM Business. Séquence à retrouver en podcast et en replay comme l'ensemble de nos contenus d'ici quelques minutes sur notre site et l'application. D'ici quelques minutes, ce sera Sandra Gandoin aux manettes d'Avec vous. Bonjour chère Sandra.
Bonjour Lorraine.
Le programme du jour.
On va parler de pression disproportionnée des managers. On va parler de formation linguistique en entreprise, aussi de comment l'IA peut améliorer la productivité de votre structure. On va parler aussi de licenciement, de primes de partage de la valeur. Et c'est quoi pour vous un salaire décent? On vous a posé la question, toutes les réponses, les conseils sont dans Avec vous. Vous nous posez vos questions à vous, avec vous à bfmbusiness.fr. On y répond avec nos experts.
Le programme d'Avec vous qui commence dans 5 minutes. Il a survécu au halving. Il est parmi nous ce matin. Amaury de Tonquédec prendra les manettes de BFM Crypto, le club, à 15h. Alors, j'ai plus d'eux.
Eh bien, ça a été fêté. Hein. Il y a beaucoup de personnes dans la communauté Bitcoin qui ont fêté cet événement, qui est maintenant plus un symbole qu'un événement d'ailleurs. À savoir, là, c'est le 4e halving. Il y en a 33 qui sont prévus en tout dans le code de Bitcoin, donc il en reste 29. Le taux d'inflation de Bitcoin est maintenant d'un peu moins de 1% par an, donc ça se réduit tous les 4 ans. Et prochain halving donc prévu pour l'instant en 2028. Et on se posera une question dans BFM Crypto Club à 15h, c'est pourquoi tous les halvings sont tous les 4 ans, parce que c'est chaque année bissextile, chaque année de Jeux Olympiques et chaque année d'élections américaines. Est-ce que ça a été fait exprès par Satoshi, le mystérieux créateur du Bitcoin? Eh bien, on se posera la question, parce que peut-être que oui.
Tous les 4 ans, tous les 210 000 blocs.
Absolument.
Réponse à 15h, et puis demain, chez nous, pour investir, pardon.
Juste avant avec vous.
Si vous voulez bien, parce que je pense que ça intéressera nos auditeurs, demain, vous viendrez nous donner la réponse à cette question. Merci à Amaury de Tonquédec, aux manettes de Tout pour Investir, et surtout aux manettes de BFM Crypto, le club, tous les jours à 15h et 21h30. Et vous le savez, comme l'ensemble de nos programmes, en podcast et en replay sur notre plateforme. Bonne écoute sur notre chaîne, et à demain.
Tout pour investir sur BFM Business.